Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
On the Road Again, émission numéro 2. Pour parler à nouveau de ces fouilles du Rhône 2025 et de la fine équipe qui est à l'origine de ce projet. Donc, une fouille de l'épave Arles-Rhône 15, qui avait été découverte et expertisée auparavant, et qui correspond à une chaloupe du 1er siècle après Jésus-Christ. Eh bien, on va entendre d'abord David Jaoui nous présenter le projet dans sa globalité. David Jaoui, on ne le présente plus, archéologue, responsable, organisateur de ces fouilles.
Donc en octobre 2013, on a inauguré l'extension du musée qui a reçu ce bateau, qui est l'un des bateaux les mieux conservés de toute l'Antiquité. Et Jean-Marc le disait, depuis 2011, on a pu plonger pendant plus de 10 ans, parce qu'après la fouille, on doit faire la post-fouille, c'est-à-dire le travail de recherche. Donc c'est un travail qui a conduit à plusieurs centaines d'articles scientifiques. On est, à mon avis, une centaine à avoir travaillé sur ces articles. Je présente ici l'Archéonautica, qui est la monographie qui a été dirigée par Sabrina sur le Chaland. Donc tout ce travail scientifique ne pouvait se faire en parallèle d'autres fouilles. Il fallait déjà publier ce qu'on avait sorti. Et ces publications scientifiques servaient également de caution pour ensuite remplir l'une des missions fondamentales d'un archéologue territorial implanté sur ce territoire, à savoir transmettre au plus grand nombre. Donc grâce à ces fouilles, grâce à ces objets exhumés, des centaines de milliers, on a pu écrire des livres, faire des expositions, des catalogues d'expositions, des bandes dessinées. On a rayonné sur Arles, mais également des expositions au Musée d'Histoire de Marseille, dans la galerie départementale d'Aix-en-Provence. Et tout ce travail, effectivement, il fallait le faire après l'étude scientifique. Donc, grâce à un budget alloué, grâce à M. Jean-Marc Perrin, on a pu remettre les pannes d'une certaine façon. Et en 2023, on s'est lancé dans une co-direction avec Sabrina et Pierre, en association donc avec le Centre Camille Julien, sur une expertise de différentes épaves. On essayait de faire un état des lieux. Cet état des lieux conservait un certain nombre d'épaves qui avaient déjà été trouvées, qui avaient déjà été partiellement fouillées. Donc l'idée, c'est de faire un constat d'état, un état des lieux, et ensuite, à la suite de ça, de projeter un projet collectif de recherche sur 3 ans, renouvelable, peut-être même sur 6 ans. Donc ce programme intitulé « Le Rhône antique dans la traversée d'Arles » vise à l'étude exhaustive des épaves romaines. Donc là, Sabrina va en reparler, mais ça concerne deux épaves, Arles-Rhône 15 et Arles-Rhône 7. Arles-Rhône 15, donc c'est Pierre qui a pris la responsabilité d'opération, et Arles-Rhône 7, c'est Sabrina. L'étude concernait aussi le dépotoir. Il faut savoir que ces épaves reposent sur un dépotoir portuaire et sont scellées également par un dépotoir portuaire. Donc ce que j'entends par dépotoir portuaire, ce sont en réalité des millions d'amphores. Toutes les céramiques en association avec la dotation de bord des marins, les vases marchandises. Donc c'est assez énorme. Donc travailler sur une épave et étudier le dépotoir en même temps. Ces épaves, on voulait également les resituer dans leur environnement portuaire. Donc ça, c'est fait en association avec l'entreprise Ipsofacto. On va faire des carottages terrestres, des carottages sous-marins à la perpendiculaire des épaves. C'est une façon de tenter de restituer le rivage, la position du rivage dans l'Antiquité. Et enfin, on va établir également des prospections. Donc ces prospections visent à trouver de nouvelles épaves, c'est le cas cette année. Et les sondages vont essayer d'évaluer l'emprise du dépotoir, l'extension du port dans l'Antiquité. Donc là, c'est vraiment tous les objectifs de ce projet collectif de recherche. Donc ce projet devait être lancé, j'ai envie de vous dire, en 2024. Le problème, vous le voyez sur les photos, la différence entre 2023, où on a pu accomplir ces expertises d'épave, et 2024, le Rhône était en crue. La mission a été totalement annulée. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'administrativement, on monte un projet, on monte une mission, mais du jour au lendemain, la mission peut s'arrêter. C'est pour ça que lorsqu'on s'est lancé dans la fouille renflouage du Chaland, il nous fallait 7 mois où on puisse plonger, et on a eu une chance absolument incroyable qui arrive une fois tous les 100 ans. On a pu plonger pendant 7 mois d'affilée sans qu'il y ait aucune crue. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la seule chose dont on est certain, c'est qu'on est certain de rien. Donc du coup, on programme, on imagine, on anticipe, mais en 2024, tout a été annulé. Donc cette année, on a pu, sur 27 jours de travail effectif, malheureusement, on a perdu 5 jours et demi à cause du Rhône qui s'est dégradé au fil du temps avec une visibilité souvent inférieure à 20 cm. Et ça, bon, malheureusement, c'est un problème. Juste une petite slide pour remercier toute l'équipe, hein, je ne peux pas tous les citer. On a le service archéologique, bien sûr, qui est représenté par Fabienne Gâteau, qui est ici depuis 2 ans, qui est arrivé depuis 2 ans au musée. Voilà. Toute l'équipe de la conservation aussi, parce que l'avantage de ces fouilles, c'est qu'on est vraiment dans une chaîne opératoire de la fouille au musée, voire même à l'exposition. Donc on a toute une cellule conservation qui nous accompagne, qui est dirigée par Soizic Toussaint. Et effectivement, dès le moment où les objets sortent, ils sont pris en leur par Marie-Laure, qui travaille, qui est archéologue plongeur, qui est conservatrice restauratrice, et ensuite c'est pris en main par toute la cellule conservation. Donc ça, c'est quand même extrêmement rare et extrêmement précieux pour le signaler. Enfin, de cette introduction sur les moyens logistiques, on en parlait tout à l'heure, hein, il faut parler du DRASM, hein, qui tous les ans nous prête un compresseur. On a le Zodiac à gauche, on a de temps en temps aussi des chefs d'opération Hyperbar qui viennent en renfort de Benoît Poinard, qui est notre chef Hyperbar depuis le renflouage qu'il a lui-même inventé. C'est lui qui a inventé le procédé pour renflouer ce chaland. On a également un tout petit bateau qui vient de l'étang des zones. Là, c'est un service départemental, un domaine départemental. Donc ça, ce sont des collègues qui nous prêtent volontiers des bateaux.
Toujours au cours de cette conférence de presse qui fut donnée en clôture de cette campagne de fouilles avec toute l'équipe en présence, c'est maintenant au tour de Sabrina Marlier, archéologue maritime et responsable d'opération de la fouille de l'épave AR7. Chaque fois qu'on dit AR, bien sûr, vous entendez Arles-Rhône. Écoutez-la.
Effectivement, sur le constat d'état qui a été fait il y a 2 ans par l'équipe, parce que c'est ce que disait David, en fait, après quasiment 10 ans d'interruption dans le Rhône, on était en plus avant en fouille programmée sur l'épave Arles-Rhône 3, on ne savait pas trop par où recommencer. Donc on s'est dit, on a ciblé en fait 4 épaves qui nous intéressaient, qui sont des épaves qui avaient été découvertes dans le cadre des missions de cartes archéologiques conduites par le DRASM, sous la direction de Luclon. Donc on avait des informations sur le potentiel scientifique de ces épaves. La question, comme elles avaient été découvertes il y a une dizaine d'années, c'était de savoir est-ce qu'elles étaient encore là, dans quel état, et quelle urgence à les fouiller, et l'intérêt scientifique. Donc cette diapo montre donc la position de ces épaves, qui sont situées un peu en amont de la voie rapide, là où se trouvait, enfin quasiment là où on vous a accueilli tout à l'heure, jusqu'au niveau des Ducs d'Albe, en face du musée. On n'est pas très loin de la berge, et on est dans des profondeurs maximum de 7 mètres. Le bilan de ce constat d'état, c'est que déjà on a retrouvé les 4 épaves en place, donc ça c'était une bonne nouvelle. Certaines étaient un peu érodées, certaines étaient un peu exposées au courant, donc érodées ou avec des parties fragilisées. Mais en tout cas en place, et on a pu faire un constat d'état, c'est-à-dire qu'on a ouvert une partie des épaves, ce que vous voyez ici, et évaluer, donc mieux affiner l'expertise scientifique et en voir l'intérêt. Pierre reviendra sur la photogrammétrie. C'est ce que vous voyez ici, ce sont des orthophotos qui ont été réalisées à partir de photogrammétrie. Et ça, c'est vraiment une des grandes réussites de l'opération d'il y a 2 ans. Donc Pierre reviendra dessus. Et le bilan, donc c'est 4 épaves. On a 2 épaves, Arles-Rhône 7 et Arles-Rhône 14, qui correspondent à des bateaux de type similaire, des bateaux à fond plat, mais complètement différents de Arles-Rhône 3 exposé au musée, qui a un chaland fluvial de construction type batellerie gallo-romaine avec des assemblages clous en fer, alors que là on a des bateaux à fond plat de construction maritime méditerranéenne, sur laquelle je reviendrai avec Arles-Rhône 7. Avec Arles-Rhône 13, on a un bateau maritime retourné, donc extrêmement intéressant pour nous, et Arles-Rhône 15, une petite barque. Donc les 4 ont un très beau potentiel scientifique, et pour le premier PCR qui a été lancé, on a décidé de commencer à travailler sur la petite barque, parce qu'elle est rapide, on va dire, à fouiller, et elle était potentiellement exposée aussi par rapport à sa position dans le fleuve, et Arles-Rhône 7. Donc je présenterai rapidement ce qu'on a pu faire cette année sur la Rural Road 7. Donc en revenant il y a 2 ans sur le constat d'état, à gauche vous voyez un croquis qui a été réalisé dans le cadre des opérations de Duclon, de l'expertise et d'une fouille qui a été réalisée. Les ouvertures, les rectangles en rouge montrent les parties qu'on a ouvertes il y a 2 ans pour faire le constat d'état. Et voici la photogrammétrie réalisée d'une des extrémités de l'épave et d'un des flancs pour voir, pour effectuer ce constat. Donc voilà en plan ce que ça donne. Donc je vous disais bateau à fond plat, a priori sans quille, construction maritime méditerranéenne, mais un bateau en fait avec une très faible hauteur de coque de à peu près 1,20 m qui a priori l'empêche de naviguer en mer. Et on l'interprète avec Pierre comme une allège, donc bateau qui était destiné à faire les allers-retours entre le port d'Arles et les avant-ports maritimes situés à Fos et au Sainte-Marie-de-la-Mer pour aller alléger les plus gros navires de mer qui arrivaient de leur cargaison et qui n'étaient pas en capacité de pénétrer dans le delta du Rhône. Donc cette année, on avait pour objectif de travailler sur l'autre extrémité de l'épave et donc d'ouvrir une partie qui, a priori, avait déjà été ouverte en fouille il y a 10 années. On voit ici sur ces images du tissu géotextile qui a été mis en place pour protéger l'épave. Mais vous voyez aussi sur la diapositive du haut, le bateau est complètement rempli et aussi recouvert par une importante masse sédimentaire et de blocs roulés, d'amas aussi, de matériel archéologique. Donc, et avec les conditions très difficiles qu'on a eues cette année dans le Rhône, soit de jours d'interruption de plongée ou de mauvaise visibilité, on n'a pas pu réaliser forcément tous les objectifs prévus, mais on arrive quand même à la fin de cette première année de fouille. On a pu rouvrir donc une grande partie de cette extrémité, possiblement l'extrémité arrière, la poupe. Et Pierre a réalisé tout à l'heure un premier passage pour faire une photogrammétrie, mais dans des conditions de visibilité très réduites, donc à voir si ça fonctionnera. Et il a pu aussi faire des prélèvements d'échantillons de bois pour déterminer les essences du bateau. Donc on n'en est qu'à la première année de fouille programmée de cette épave, et on va continuer l'année prochaine et encore l'année suivante.
Vous entendrez maintenant Pierre Poveda. Pierre Poveda, c'est un archéologue naval du CNRS et du CCJ, du Centre Camille Julian, une unité de recherche basée à Aix-en-Provence. Il est responsable de l'opération de la fouille de l'épave AR15 cette fois.
Toute petite, hein, c'est un bateau qui fait moins de 5 mètres de long. L'intérêt là, il est face à un bateau dont la fonction est inhabituelle. Puisque la plupart des épaves qu'on va fouiller aussi bien en mer que ici dans le fleuve sont plutôt des épaves de bateaux de commerce, de différentes tailles, mais qui sont amenées à charger des cargaisons. Et là, on est face à une toute petite embarcation dont la fonction demeure encore un peu énigmatique aujourd'hui, mais qui a l'avantage d'être bien différente des autres, d'apporter des nouvelles informations et de révéler tout un pan aussi de l'activité portuaire qui n'est peut-être pas aussi bien visible à travers les grandes épaves comme celle d'Arlon 3 ou Arlon 7 que vient de vous présenter Sabrina. Cette année, l'objectif, il était de finir la fouille de ce bateau. Dans la partie centrale, là, vous voyez grisée, il y avait tout un tas de sédiments, de matériel divers et varié. La vidéo qui tournait en continu au début présentait aussi le dégagement de cette épave Arlon 15. Qui se présente sous la forme donc, d'une petite embarcation et qui a pour particularité, normalement, voilà, on voit le résultat de la 3D, qui a pour particularité d'avoir l'une de ses extrémités qui se termine avec un tableau. Je vais y revenir dessus, puisqu'on peut le relier via l'iconographie antique, via les mosaïques antiques, à un certain type d'embarcation. Mais vous le voyez là, le bateau est extrêmement bien conservé sur au moins l'un de ses flancs. Je ne le baptise pas tribord ou bâbord, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais on a des pièces extrêmement intéressantes, comme le pied de mât qu'on voit là, le petit trou qu'on a vu passer, c'est certainement ce qu'on appelle l'emplanture, une pièce qui sert à fixer le mât. Et au-dessus de cette... on ne voit pas la souris, mais au-dessus de ce tableau que vous voyez figuré là à gauche sur la 3D, se placer une pièce de plat-bord qui était certainement utilisée pour placer un gouvernail. Et voilà, je vous le disais, l'iconographie est d'une grande aide pour la compréhension de ce bateau-là, puisque là, vous avez tout un panel de différentes représentations de bateaux avec une des extrémités qui est coupée, qui est semi-circulaire. Donc il y a un élément de bois qui vient fermer le bateau à l'une de ses extrémités et qui est associé au nom Aurea. C'est son nom latin. Donc c'est une navis aurea, ou naves aureae si on le dit au pluriel. Et ce type d'embarcation, on en a retrouvé une petite poignée dans toute la Méditerranée, notamment à Toulon. Vous voyez les fouilles de Toulon-Besagne à côté du stade Mayol, où deux aureae de ce type, avec des petits tableaux, ont été découvertes. Et on se rend compte par l'iconographie qu'il s'agit peut-être de bateaux servant à la pêche. Donc on est peut-être face à un petit bateau de pêche du Rhône il y a 2000 ans. Ou bien encore un bateau qui va servir à remorquer les plus grandes embarcations et qui peut servir simplement dans l'espace portuaire du fleuve. Donc c'est un petit bateau qui va amener des gens de la berge jusqu'à un grand bateau, peut-être tirer les amarres pour qu'on puisse venir amarrer ce bateau avant de le décharger dans les entrepôts. Ou bien encore, pourquoi pas, d'une petite embarcation qui est chargée sur un grand bateau, qui a remonté le Rhône et qui va a perdu son annexe comme on a un Zodiac sur nos voiliers actuels. Et cette petite embarcation, on espère que toutes les analyses de bois et toutes les analyses spécifiques qu'on a fait autour de ce bateau-là vont nous permettre de répondre à ces questions. Et peut-être, pourquoi pas, trouver une origine bien plus lointaine que celle du Rhône à ce petit bateau. En complément, on a aussi procédé à toute une série de carottages avec notre collègue Nicolas Carillon de la SCOP archéologique Ipso Facto. Et le but de ces carottages que vous voyez être en train de réaliser là, au niveau de l'épave, toute une série a été réalisée depuis la berge jusqu'au niveau de l'épave, et plus loin dans le chenal. Alors l'objectif, il est là de définir très précisément où se trouvaient les berges du Rhône à l'époque romaine et comment le fleuve a évolué. Alors notre objectif, il est bien sûr de définir le paysage fluvial de l'époque, mais il est aussi, en termes de paléo-environnement, de s'interroger sur la manière dont le fleuve peut évoluer et quelles peuvent être les caractéristiques du fleuve dans les années à venir. Donc il y a aussi toute cette perspective de mise en regard du passé avec le futur qui est très importante dans ce type d'analyse. Et Arlon 15 permet de donner un marqueur chronologique à toutes ces carottes qui sont effectuées par Nicolas et qui vont, a posteriori, être aussi analysées. J'allais l'oublier, avec notre collègue Férol Salomon de l'Université de Strasbourg, qui mène un grand projet d'ANR, donc de l'Agence Nationale de la Recherche, qui est très financé, et qui va nous permettre de restituer tout ce paléo-environnement, non seulement sur Arles, mais aussi dans la zone des avant-bois.
Prospection et sondage, c'est David Jaoui qui va terminer ce petit défilé et clore la conférence de presse. Peut-être, auditeurs, avez-vous compris qu'il y avait aussi à voir lors de cette conférence de presse, c'est-à-dire des images qui nous étaient montrées à l'appui de toutes ces brillantes explications. Mais évidemment, ce que vous avez entendu vous a permis de comprendre de quoi il retournait. Et je laisse David vous expliquer donc la dernière étape et les prospectives qui seront donc lancées pour la suite des événements. Je vous laisse l'écouter, sans citer les 27 personnes que j'aurais pu citer, qui faisaient partie de l'équipe de choc, l'équipe de chantier, sans laquelle rien n'aurait été possible. Et je vous salue, auditeurs, à bientôt.
Avec Alex Sabastia de l'INRAP, on a lancé une mission de prospection-sondage. Donc là, vous avez l'épave Arlon 15, et à partir d'ici, on avait tracé un axe perpendiculaire à la berge de 60 mètres de longueur, en définissant des couloirs de prospection de 5 mètres. Donc cette prospection, on le voit ici, vous avez les points topographiques qui ont été faits par Laurent Vallière, donc encore une collaboration de l'INRAP, qui permet de géopositionner ces points de manière extrêmement précise. Lors de cette prospection, on a trouvé des madriers de 17 mètres de long, donc là on les a positionnés, on a fait des prélèvements de bois pour savoir s'ils sont antiques ou pas. Et à la suite de cette prospection, on a implanté un petit sondage. Alors, il est tout petit, hein, vous le voyez ici en rouge, de 2 mètres sur 2. Donc, l'objectif de ce sondage, c'est de savoir si on avait encore des amphores, si on était encore dans la zone de rupture de charge. Et effectivement, très vite, on a pu voir, je ne sais pas si vous le voyez bien sur les images, des amphores, deux niveaux d'amphores imbriqués les unes dans les autres, avec beaucoup de matériel. Donc ça nous apprend quelque chose, si on prend un petit peu de recul. On a tout le Rhône dans la traversée d'Arles, donc qui est le titre du programme collectif de recherche. Le sondage est ici, il date, les amphores et les céramiques datent entre 50 et 100 après Jésus-Christ. Et ça nous apprend que dans l'Antiquité, le port, entre 50 et 100, s'éloignait du centre-ville. Il était vraiment assez loin au niveau des Ducs d'Albe, hein, avec... Et quelques journalistes, on a pu aller sur ce site, donc on est vraiment éloigné. C'est l'extension maximale, l'âge d'or de la ville antique à l'époque entre 50 et 100 après Jésus-Christ. Ensuite, les autres fouilles nous avaient montré que quand on se rapproche du centre-ville, on arrive vers du 2e après, on se rapproche encore 3e après, 4e après. Autrement dit, 2e, 3e, 4e après, l'activité commerciale se réduit et se concentre face à la ville antique. Et ce sondage, pour l'instant, montre l'extension maximale du commerce entre 50 et 100 qui s'éloigne. Donc c'est ce que je disais, l'âge d'or commercial de la ville d'Arles. Et peut-être que l'année prochaine, on ira encore plus loin pour voir si on a encore des amphores. Dans ce sondage, on a trouvé deux éléments qui paraissent assez anecdotiques. C'est des conserves de bord des marins. Alors celui de gauche vient de Rome, enfin du port de Stie. Celui de droite vient de Bétique, actuelle Andalousie. Donc ça, ces éléments nous apportent des informations sur l'architecture navale, de manière assez étonnante. Car si on trouve ces conserves de bord d'Italie et d'Espagne, c'est parce que des marins ont embarqué dans des bateaux en capacité de remonter le Rhône jusqu'à Arles. C'est-à-dire qu'ils avaient un tirant d'eau inférieur à 1,50 m pour passer au-dessus des cordons alluvionnaires. Donc ça, c'est des données qu'on a bien enregistrées sur Arlon 3. On a une centaine de CEPO, et à vrai dire, il devrait y en avoir des milliers, ce qui suppose de nombreux bateaux en capacité de remonter le Rhône jusqu'à Arles. Et jusqu'à présent, on n'en connaissait qu'un seul, un bateau maritime, dont on a fait l'impasse pour l'instant, en tout cas, on n'y travaille pas encore. Et dans ce sondage, la chance qu'on a eue, c'est de trouver un élément en bois de bateau. Donc on pouvait savoir qu'il était antique parce qu'on pouvait voir des gournables, ce sont des chevilles en bois. Traditionnellement, ça appartient au système d'assemblage des bateaux antiques. Donc sous l'initiative d'Alex Sabastia, on a relevé ce morceau. Et grâce à Lionel Roux du Centre Camille Julien, on a pu faire une photogrammétrie. Et grâce à l'expertise de Pierre, alors je ne sais pas si on le voit bien sur le dessin, on a pu restituer en fait un bateau, vous avez l'élément prélevé, qui arrive jusque là. Donc là, on avait deux données, un bateau maritime et un bateau d'une longueur pratiquement de 20 mètres. Donc ce sont ces bateaux qui pouvaient potentiellement transporter toutes ces conserves de bord et qui permettent pour nous de retracer un axe commercial. Donc c'est également une nouvelle épave baptisée SM 25 ou 26
Arles-Rhône.
Ah oui, SM c'est Sainte-Marie. Arles-Rhône 25. Donc concernant Arwen 7, on a fait un sondage à l'intérieur du bateau. L'objectif, c'était d'atteindre le bois pour permettre aux archéologues navals ensuite de dessiner, d'enregistrer les éléments, de faire une photogrammétrie. Donc là, on a abandonné ce sondage parce qu'on avait énormément de céramique. En revanche, dès la fouille de la couche de surface, sous l'initiative d'Alain Genot, qui est un archéologue également du musée départemental à l'Antique, il avait eu la bonne idée de placer un tapitami, on appelle ça, c'est-à-dire un filtre. Donc vous le voyez sur les images, hein, c'est un filtre qui est en rejet de l'aspirateur à sédiments et qui permet d'enregistrer des objets, des petits objets qu'on n'a pas forcément vus au moment de la fouille. Hein. Vous l'avez vu, les conditions de visibilité sont très très réduites. Et lors de la première palanquée, de la première plongée, dans ce tapitami, on a enregistré 60 monnaies. Lors de la deuxième plongée, on a enregistré 80 monnaies. Donc au niveau des statistiques, en comparaison avec Arloron 3, on explosait les chiffres. Et ensuite, c'est Louise Constant qui, en plongée, a trouvé la source, ou l'une des sources. Donc vous avez les monnaies au fond de l'eau. On avait même quelquefois des piles renversées. Et on voit donc là le moment où effectivement on récupère ces monnaies. Donc à cet endroit, on n'est pas dans l'épave, on est sur le dépotoir qui recouvre l'épave. On a trouvé 600 monnaies, plus de 600 monnaies. Et au total, on a 847 monnaies trouvées sur ce dépotoir. Donc on va en voir quelques-unes. On a une grande majorité de monnaies qui datent du 3e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que certaines sont quand même en excellent état de conservation. Ici, on est entre 268 et 269, Antonin de Claude II. Ensuite, on a beaucoup de monnaies du 4e, donc des monnaies de l'atelier arlésien. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour nous. On est au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est extrêmement assez homogène, 3e, 4e. Et quelquefois, on a également des monnaies plus anciennes. Donc là, on a un très beau sesterce de Trajan. Donc c'est assez étonnant parce que tout autour de la monnaie, il décrit les victoires qu'il a remportées sur les Germains, les Daces, les Parthes. On le voit à droite sur le revers, assis sur une chaise curule, en tenue militaire, en train de poser une couronne sur le roi des Parthes. Donc c'est vraiment une stratégie, une propagande qu'on retrouve souvent sur ce type de monnaie. Donc aujourd'hui, avec 847 monnaies, donc ça fait partie des conditions où le Rhône, finalement dégradé, nous a permis de monter un petit atelier photo avec Lionel Roux du CCJ, avec Jonas Forchini, avec qui travaille pour le musée en contrat, et toute la chaîne logistique également de la cellule de conservation, parce qu'il faut sortir les monnaies, les enregistrer, les sécher, des fois même les humidifier pour qu'on arrive mieux à les photographier. Donc grâce ou à cause des conditions dégradées dans le Rhône, on va finir la mission en ayant photographié toutes ces monnaies. Alors, concernant l'étude va être extrêmement intéressante, elle reste à mener, mais on va pouvoir confronter la datation de ces monnaies avec celle des amphores, des céramiques retrouvées. On a, bien sûr, on va avoir une image du rayonnement d'Arles, j'allais dire à l'international. Donc en plus, 3e siècle après, c'est une période un peu trouble. On a en moins de 50 ans une vingtaine d'empereurs qui se succèdent. Là, ça va être plus compliqué, Jean-Marc, pour retenir la
pas.
Et bien sûr, l'atelier monétaire d'Arles au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc ça, pour nous, c'est génial parce qu'on a déjà un numismate qui pilote un projet concernant ces monnaies. Actuellement, il fait à peu près le tour d'Europe des musées pour savoir si elles sont présentes ou pas. Donc ces monnaies vont venir enrichir ce projet. On peut espérer également des monnaies inédites. Hein. L'étude reste à faire, on va toutes les traiter. Donc c'est un investissement que le musée va mettre pour restaurer, stabiliser ces monnaies. Et enfin, il faudra prévoir une étude sur l'iconographie. Le revers, bien sûr, on a souvent des thèmes politiques, religieux, qui sont mis en avant dans cette communication. Les monnaies, c'est de la communication. Donc on a toute une étude qui reste à faire et qui nous enthousiasme.